400 hectares sont partis en fumée sur Dimbéa et Païta et plus d'une cinquantaine de maisons ont été menacées et le risque n'est pas écarté. Qu'elles soient au froment ou au sarrasin, les crêpes et les galettes ont la cote en ce jour de la Chandeleur. Rentrée du magazine Transparence vendredi midi, sous le signe des élections municipales, Elisabeth Noir recevait le maire du Mont d'Or, Eddie Le Courrieux. Sus à l'Anthropogon, au parc de la Rivière Bleue, les agents provinciaux arrachent chaque jour depuis un mois et demi cette plante invasive. Ambiance détendue au centre de confinement de Carry-le-Rouet, près de Marseille, les rapatriés de Chine trouvent leur marque. Et en rugby, Fabien Galthié va faire ses grands débuts à la tête du 15 de France avec d'entrée un match au sommet face au 15 de la Rose. Bonjour et bienvenue dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Les soldats du feu sont toujours à pied d'œuvre dans l'agglomération entre Dimbéa et Païta. Les pompiers continuent de faire face à l'incendie qui s'est déclenché hier sur le secteur de Val-Suzon-Val-Fleury et qui a nécessité le déclenchement du plan Orsec feu de forêt de niveau 2, Mickaël Juneski.
Oui, plus d'une cinquantaine d'habitations a dû être protégées. Le dernier communiqué de la sécurité civile fait état de 100 logements qui ont été ou qui sont encore menacés. Les flammes sévissent dans un secteur non loin de lotissement. Les pompiers et les membres de la sécurité civile sont déployés depuis ce samedi après-midi. Déjà près de 400 hectares de végétation sont partis en fumée. Le dernier point de situation avec le capitaine Anthony Guépy. Il est le responsable de l'intervention pour la sécurité civile.
Depuis hier, début d'après-midi, il n'y a pas eu de grosse évolution sur notre stratégie, on va dire. Hier après-midi, donc, on a fait évacuer une colonie de vacances avec 24 enfants. Et aujourd'hui, encore, nous faisons des protections d'habitation. On a estimé environ 50 habitations qui ont été protégées depuis hier, début d'après-midi. C'est le cas encore aujourd'hui du côté RT1, à proximité des Trois-Vallées. Actuellement, c'est principalement le lotissement Roland et les habitations qui sont en bord de route face à la carrière. Après, tout ce qui est secteur Katiramona, Pétroglyphe, Nandoué, il y a toujours une surveillance active sur ces zones-là, mais elles ne sont plus en danger comme elles l'ont été jusqu'à 3h ce matin.
Vous avez bon espoir de pouvoir vous rendre maître des flammes ce soir, demain?
L'estimation va être compliquée parce que on se rend compte que les estimations de vent ne sont pas toujours à 100% correctes. On avait prévu un vent moins important aujourd'hui et on se rend compte que finalement le vent souffle encore très fort. Si on joue un peu de chance, on pourrait espérer commencer les phases de noyage demain. Les premières difficultés, c'est que depuis hier, début d'après-midi, l'émission principale, c'était de sauver les habitations. En fin de soirée, le feu côté Montmou avait stoppé sa propagation. La difficulté également, c'est que tout ce qui est sur le flanc gauche du feu, donc le côté que peut voir le lotissement Les Trois-Vallées, ce n'est pas accessible en fait à pied et uniquement par les moyens aériens.
Un message pour la population?
Comme conseil, c'est effectivement, après on peut dire qu'il y a des gens qui nous appellent pour nous signaler que le feu n'est pas loin de chez eux. C'est important de nous le signaler parce que vu l'étendue de l'ampleur, on ne peut pas avoir les yeux partout. Mais par contre, il ne faut pas crier au loup en fait. Quand le feu est à 300 mètres ou quand on entend des crépitements, il ne faut pas dire que le feu est devant chez soi parce que ça fait déplacer tous les dispositif et ça peut mettre en danger des habitations qui étaient vraiment à proximité de l'incendie.
Le capitaine Anthony Guépy, chef de l'intervention pour la sécurité civile. Un dispositif encore important est déployé pour faire face à ce feu de brousse. 10 véhicules de toutes les casernes du Grand Nouméa et de la sécurité civile, mais aussi 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés. Un feu qui s'est déclenché, on le rappelle, hier en raison d'un écobuage mal maîtrisé.
Et côté information pratique, notez qu'une déviation a été mise en place sur la RT1 par la gendarmerie nationale entre les Trois-Vallées et Katiramona par mesure de précaution. Et qu'à Païta, le maire Willy Gatuo a déclenché le plan communal de sauvegarde afin d'héberger d'éventuels sinistrés et toutes les personnes incommodées par les fumées de l'incendie. Si c'est votre cas, vous pouvez composer le 18 pour vous signaler. On vous orientera soit vers l'arène du Sud ou la salle Omnisport de Païta. Et en Australie, l'état d'urgence a été décrété hier soir et au moins jusqu'à lundi dans la région de Canberra. Les incendies poussés par des vents violents et des températures supérieures à 46 degrés ont déjà consumé une superficie de plus de 37 000 hectares. Au chapitre des faits divers, agression homophobe au Kwendu Beach hier matin. Un homme alcoolisé s'en est pris à une personne qui a refusé de lui donner de l'argent et du tabac. Il l'a mis à terre et lui a porté un coup au visage. L'agresseur a été interpellé et a expliqué son geste du fait de l'orientation sexuelle apparente de la victime. Il sera convoqué en avril devant la justice. Les crêpes sont à l'honneur en ce jour de la Chandeleur. Si la tradition n'est pas connue de tous, rares sont ceux qui boudent une crêpe. Chaque gourmand a sa préférée. Tour d'horizon de vos recettes favorites avec Mickaël Juniski.
Eh ben, on l'aime, on les aime nature, pas forcément de choses dedans, oui. La crêpe normale.
Crêpe au caramel.
Ah, je sais pas, moi je suis pas spécialiste des crêpes. Moi.
Crêpe, mais si on peut rajouter un peu de steak et un peu de jambon dedans.
Ah oui, voilà, c'est le meilleur.
Voilà. Ben, moi, comme je suis alsacienne, je mets un petit peu de bière dedans. Pour qu'elle soit légère, un tout petit peu, hein, un demi-verre. Oui, ça aère un peu la pâte.
Hein. C'est la Chandeleur, vous le savez. Hein.
Oui, je sais, hein, c'est pour ma femme. Bah, moi, je le fais pas tellement. En Calédonie, ils la connaissent pas tellement. Elle est enceinte, elle a envie de manger ça.
C'est quoi votre recette favorite?
Avec du Nutella.
Crêpe roulée.
C'est tout?
Oui.
Mais avec quoi dedans?
Les œufs, du sucre. Avec du lait.
Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Chandeleur.
C'est la quoi?
Elle dit qu'elle adore, mais on adore que Dieu et son mari.
J'adore les crêpes.
Oui, moi aussi.
Votre recette?
Suzette. Oui, je fais moi-même la pâte, mais j'adore ça. C'est la plus simple, et puis après tout, elle est bonne. Hein.
Tout ce qu'elle fait, c'est bon. Donc, j'ai pas de prédilection.
Comment tu t'appelles?
Zibeli.
Quelle est ta recette de crêpe préférée?
Crêpe au chocolat.
C'est les meilleures?
Oui.
Avec du Nutella ou du chocolat? Noir.
Du chocolat normal. C'est mes préférés.
Et pour attirer la richesse à soi, certains respecteront aujourd'hui la tradition de faire sauter dans une poêle leur crêpe avec dans la main gauche une pièce. Et nous rappelons que les chrétiens célèbrent en ce jour de la Chandeleur la présentation de l'enfant Jésus au temple 40 jours après sa naissance.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le magazine Transparence faisait sa rentrée vendredi sous le signe des municipales. Eddy Le Courrieux, le maire du Mont d'Or, était l'invité d'Elisabeth Noir. Le premier édile a lancé officiellement sa campagne vendredi matin. Il a été interrogé sur ses motivations, ses projets et son programme, Mickaël Juniski.
Conseiller municipal et adjointe au maire depuis 2008, Eddy Le Courrieux est maire de la commune depuis le 2 avril 2019, quand Éric Guay lui a transmis le flambeau. C'est naturellement qu'il sollicite un nouveau mandat cette année et il le fait à la tête d'une liste largement renouvelée. Il explique comment il l'a composée.
Je l'ai constitué d'hommes et de femmes qui partageaient le même idéal que moi, à savoir une partie d'expérience, des nouvelles compétences. Moi, vous savez, je suis quelqu'un où j'aime, je dis souvent, apprendre à être humble et bienveillant, ce qui est quelque chose de très, très difficile. Et pourtant, dans l'équipe qui m'entoure aujourd'hui, je remarque toutes ces aptitudes qui peuvent faire en sorte qu'on peut rendre ce service à la population.
Et la composition de cette liste n'est pas encore définitivement arrêtée. C'est une liste dont l'ossature est rassemblement, mais qui réunit également des personnes issues des autres partis de l'Avenir en Confiance ou du Rassemblement National. Elle fera campagne avec, pour slogan, « Vivre au Mont d'Or », un mot d'ordre sur lequel est revenu, Eddy Le Courrieux.
Vivre au Mont d'Or, je crois que c'est un état d'esprit. Et nous, on voulait que les gens qui vivent au Mont d'Or, ils sachent de quoi on parle. C'est une commune qui est énorme, qui est très très grande, qui est très très belle, qui est très très propre. Et je crois qu'il n'y a que les gens du Mont d'Or et les communautés sont très souvent réunies. Et je crois que cette commune qui est, j'allais dire, à droite de l'agglo, là, celle qui ne va pas sur Tantouta, vous savez, on est un peu dans un cul-de-sac, et bien voilà, on a l'impression qu'on nous met un peu de côté. Et moi j'ai envie de dire, ben, laissez-nous vivre au Mont d'Or.
Le programme de campagne ne sera dévoilé que dans les prochaines semaines, mais il comprendra 12 priorités et Eddy Le Courrieux en a présenté 3. La première, c'est que le Mont d'Or s'ouvre vers la mer.
Et elle est face à la mer, ça c'est clair, il y a un littoral qui est énorme, mais je crois qu'il y a encore un potentiel. On a déjà un certain nombre d'établissements ou d'associations qui travaillent dans ce sens, les piroguées du Mont d'Or et d'autres activités. Mais moi je pense qu'aujourd'hui on a encore trop de gens dans les quartiers, trop de personnes qui n'ont pas accès à la mer, qui n'ont pas de bateau, ou c'est trop loin pour aller sur un îlot. Et donc, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Entièrement rénover l'îlot Bailly, qui est énorme, et sur lequel il y a un potentiel magnifique pour permettre aux Mandoriens de retourner sur les îlots. C'est, en plus, c'est le seul endroit où il y a une plage de sable blanc, donc c'est vraiment très, très, très beau. Aujourd'hui, c'est engoncé dans les mimosas et les langues de belle-mère, donc c'est un truc qui est horrible, parce qu'il y a plein de moustiques, et donc je crois que ce travail de rénovation de l'îlot va permettre à tout un chacun de revenir.
autre priorité, la création d'une brigade motorisée de la police municipale du Mont d'Or, parce que la sécurité reste une demande forte.
La sécurité, ça reste le problème majeur des Calédoniens. Moi, je rappelle que la sécurité, enfin, ces problèmes-là sont vraiment de compétence de l'ordre public, c'est de compétence de l'État. C'est pour cela qu'on vient à la ville, on vient compléter un petit peu le travail des gendarmeries, à savoir, on met en place des équipements, on met en place un certain nombre d'achats de véhicules, etc. Mais moi, j'ai décidé de créer une police motorisée, une brigade de police motorisée.
Et dans le domaine de l'environnement et du développement durable, Eddy Le Courrieux va proposer le broyage à domicile des déchets verts. La campagne de proximité est déjà lancée depuis plusieurs semaines au Mont d'Or et la liste d'Eddy Le Courrieux tiendra deux meetings les 6 et 12 mars. Au moins 4 listes seront présentes face à la liste du maire sortant. Une liste Génération NC, conduite par Nina Julier. Une liste Calédonie Ensemble, emmenée par Patrick Lobreau. Une liste de l'éveil océanien, avec Petero Sao. Et une liste indépendantiste.
Une interview qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition 17h45. Vous pouvez également la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Info Week-end, midi 11.
L'actualité environnementale à présent. Tous les ans, les agents provinciaux du parc de la Rivière Bleue ont une mission de taille, venir à bout d'une espèce végétale envahissante, l'andropogon. Pendant un mois et demi, ils travaillent sans relâche pour arracher à la main cette plante de type graminée qui prolifère extrêmement rapidement. Une mauvaise herbe introduite malencontreusement. Le directeur du parc de la Rivière Bleue, Joseph Manoret, au micro d'Adélaïde Méli.
On a identifié il y a plusieurs années de cela une espèce végétale envahissante, donc andropogon, dans des parcelles qui ont été reboisées et fertilisées avec un engrais organique. L'engrais par lui-même ne pose pas de souci. Par contre, dans cet engrais organique, il y avait des semences d'une espèce exotique qui a la particularité d'être extrêmement envahissante, d'être prolifique en termes de semences. On l'a identifié il y a à peu près une dizaine d'années. Et donc depuis, on a mis en place un dispositif. D'abord, on est intervenu sur ces parcelles en faisant des traitements, c'est-à-dire avec un herbicide, et on s'est aperçu que le traitement n'atteignait pas les objectifs qu'on se fixait. Du coup, on a revu notre manière de procéder en procédant plutôt à des arrachages manuels pour l'arracher, pour la couper à ras de terre. On intervient en cette période parce que c'est sec et chaud et ça permet de garantir la mortalité des plantes qu'on arrache.
Les salariés du parc de la Rivière Bleue travaillent 7 jours sur 7. Ils profitent de la fraîcheur du matin ou de la tombée de la nuit pour s'attaquer à l'andropogon. Une plante qui, en plus d'être prolifique, résiste au feu. Joseph Manoret.
C'est pas une plante qu'on va retrouver de manière très commune dans le Grand Sud. Vraiment une espèce anormalement présente. Quelque chose que vous voyez pas aux alentours. C'est une graminée. Ça ressemble un peu à l'herbe de Wegwa ou l'herbe de Bandé. C'est par contre beaucoup moins haut. Et ça fait une hampe florale, c'est-à-dire une tige qui va se développer en cette période de l'année. Et au bout de cette tige qui va faire 40 à 50 cm de haut, vous avez comme des épis, qui est pas comme un épi de blé. Les inflorescences vont être vraiment très détachées les unes des autres. Et ça fait comme des petits plumeaux blancs. La particularité de cette plante, c'est le fait qu'en fait, elle s'installe, elle se propage très rapidement. Comme elle est prolifique, en plus, elle prend la place de tout le reste. Et autre particularité, c'est qu'elle résiste au feu. Si un feu vient à se déclarer, il va y trouver du combustible, va favoriser des feux plus intenses. Et en plus, après le feu, c'est celle qui redémarre plus préférentiellement. C'est vraiment un souci, il faut pouvoir intervenir le plus tôt possible.
Joseph Manoté, le directeur du parc de la Rivière Bleue. Pour l'heure, une vingtaine d'hectares est actuellement infectée par l'andropogon sur les 22 000 que compte le parc. En maintenant la pression sur cette espèce invasive, celle-ci devrait entièrement disparaître d'ici 5 ans. C'est la journée mondiale des zones humides et la Société calédonienne d'ornithologie vous propose ce matin une balade autour du plan d'eau et de la mangrove de Rivière Salée pour découvrir les espèces d'oiseaux qui y vivent. Une journée mondiale des zones humides qui sera relayée tous les week-ends du mois de février par la province sud et les associations environnementales. Le programme des activités est disponible sur le site internet de la province. Et c'est également un dimanche en mode doux autour de la place des Cocotiers à Nouméa. Comme tous les premiers dimanches du mois, la circulation est réservée aux vélos, trottinettes, et autres skateboards jusqu'à 18h. Midi, passé de bientôt 15 minutes, une pause et nous évoquerons l'actualité en métropole et dans le monde.
Du vendredi 7 au dimanche 9 février, le centre sportif de Boulary accueille la 7e édition de la Calédonienne de pétanque. Venez vous affronter durant 3 jours de compétition. Licencié ou non, tireur ou pointeur, inscrivez-vous vite chez Bernic Sport au quartier latin ou sur le site ticket.nc avant le 6 février. Tous les renseignements sont sur la page Facebook de la Calédonienne de pétanque. Du 7 au 9 février, ne perdez pas la boule, tous à Boulary.
Vous avez une petite fringale? Vous avez une grosse fringale? Alors venez vite au snack Ciné City. Aussitôt commandé, aussitôt servi. Le snack Ciné City propose des sandwichs, des paninis, des salades, des burgers et les menus du chef. Sur place ou à emporter avec le snack Ciné City, c'est copieux, c'est pratique et c'est pas cher. Ouvert dès 11h30 le matin et 16h30 le soir. Le snack Ciné City, pour passer un moment vraiment sympa.
Et si je veux refaire ma peinture? Et si je veux vernir un meuble? Et si je veux protéger mes boiseries? Et si je veux...
Eh bien justement, chez Gédimat, on a bien écouté tout ce que vous vouliez et on a décidé de mieux vous servir. Peinture, vernis, lasure.
Gédimat, au cœur de l'ouvrage. Gédimat, c'est votre magasin à Ducos au 25 98 84 ou sur www.gedimat.fr.
Jeudi 20 et vendredi 21 février, dès 20h au JP's Club, revivez les meilleurs tubes de Queen durant un live exceptionnel de 2h avec le groupe Lolita Rock, de retour de Tahiti où ils ont fait un carton. Billets en vente sur ticket.nc, dans les 3 boutiques Optique 2000 et chez l'opticien au Dom et Amol. 2500 francs pré-vente, 3000 francs sur place, une conso incluse. Toutes les infos, 82 12 84. Queen by Lolita Rock, les 20 et 21 février au JP's Club.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite du journal, c'est avec vous Frédéric Joncheret.
Et avec l'actualité en métropole, le deuxième avion qui rapatrie les Français de Wuhan en Chine atterrira ce soir pour nous. Près de 200 personnes sont déjà rentrées en France grâce au vol affrété par le gouvernement. Ils se trouvent dans un centre de vacances près de Marseille, à Carry-le-Rouet. Ils doivent y rester confinés durant 14 jours afin de vérifier que personne n'a été atteint par le coronavirus. Ils ont passé leur première journée en quarantaine et chacun cherche ses marques. Le reportage de Stéphane Frangis pour Europe 1.
Avec quand même une problématique à régler quand on est parti de chez soi dans la précipitation, que beaucoup de choses viennent à manquer et que par définition, eh bien, on ne peut pas quitter le centre de quarantaine. Comment fait-on? Eh bien, on peut compter pour certains sur des collègues de travail pour se faire livrer des courses.
Ils n'ont pas de quoi se raser, ils n'ont pas grand-chose, donc on leur ramène tout.
Donc voilà. Là, vous donnez à la Croix-Rouge qui fait l'intermédiaire,
c'est ça? Voilà, c'est ça, a priori, c'est ce qu'on m'a dit, ce qui va se passer.
Ouais, il y a des rasoirs, enfin, il y a des adaptateurs pour les prises, il y a un matériel basique pour des personnes qui arrivent de Chine et qui n'ont pas leur matériel, quoi. Des vêtements, des journaux, des bouquins, etc.
Ouais, ça va, ils s'ennuient un peu, en fait, avec 15 jours pour s'occuper. Quoi.
Et à l'intérieur du centre de quarantaine, contre toute attente, malgré ce contexte et les contraintes médicales, et bien l'ambiance est plutôt joyeuse, témoigne Théo Merger, qui est bénévole sur place à la Croix-Rouge.
Pour l'instant, ils sont super détendus. J'ai l'impression qu'ils se découvrent et qu'ils se rencontrent. Il y a des amitiés qui se créent. Les enfants jouent entre eux. Les familles se rencontrent, mangent ensemble. Et c'est hyper jovial. Ils n'ont pas l'air embêtés par le masque. C'est sûr que c'est la seule barrière qu'il y a entre nous et qui paraît particulière quand on commence à faire des jeux ensemble. On a chacun un masque sur la bouche. Mais non, à part ça, c'est naturel.
Et sans oublier les contrôles médicaux qui vont bien évidemment rythmer les journées pour les 2 semaines à venir.
Le virus touche à présent plus d'une vingtaine de pays, dont notre voisin australien. 12 cas ont été confirmés dans le pays. Le Premier ministre Scott Morrison vient d'annoncer une série de mesures immédiates pour tenter de limiter la propagation du coronavirus. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Scott Morrison a décidé, avec effet immédiat, d'interdire l'entrée en Australie de tous les non-résidents en provenance de Chine. Il a précisé que, je cite, « seuls les citoyens australiens, les résidents australiens et les membres de leur famille immédiate seront autorisés à entrer en Australie, où ils devront toutefois se placer en isolement à domicile pendant 2 semaines ». Il a également été vivement déconseillé aux Australiens de se rendre en Chine continentale. Toutes ces mesures feront l'objet d'une révision mi-février. Un appareil de la Qantas serait quant à lui sur le point de rapatrier les quelques 600 Australiens et résidents australiens présentement bloqués à Wuhan. Dès leur retour, ils seront placés en quarantaine pendant 2 semaines dans l'ancien centre de détention de l'île Christmas, où les 23 membres d'une équipe médicale spéciale viennent d'arriver en vue de veiller sur eux. À Sydney, Jean-Pierre Dajac, RRB.
Et ajoutons que la compagnie Qantas a annoncé qu'elle suspendrait tous ses vols vers la Chine à compter du 9 février et jusqu'au 29 mars. 3239 personnes sont décédées sur les routes de France l'an dernier, un chiffre historiquement bas attribué par le gouvernement à l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires, Morgane Boucher.
Le nombre d'accidents corporels et de blessés est également en baisse. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a martelé que ces résultats sont le fruit d'une politique volontariste. Il a affirmé qu'au total, 336 vies ont été sauvées depuis l'entrée en vigueur de cette mesure en juillet 2018 sur 400 000 km de route. Mais statistiquement, la mortalité a quasiment stagné en 2019. La sécurité routière a comptabilisé 9 morts de moins qu'en 2018, soit une très légère baisse de 0,3%. En revanche, la mortalité routière a augmenté de presque 6% en Outre-mer.
Et on précisera enfin qu'en métropole, 11 morts ont été recensés en trottinette, un chiffre mesuré pour la première fois en 2019. Mea culpa de la ministre du Travail sur le dossier du congé parental après le décès d'un enfant. Muriel Pénicaud a reconnu que le gouvernement avait fait une erreur en s'opposant à une proposition de loi pour porter de 5 à 12 jours le congé donné aux parents après la perte d'un enfant. Face au deuil, il faut du soutien psychologique et nous allons le renforcer, a indiqué la ministre, qui a assuré que le gouvernement allait corriger rapidement son erreur. Une erreur qui avait été critiquée notamment par le chef de l'État. Ce matin, Emmanuel Macron a récidivé et demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité dans le soutien aux parents confrontés au deuil d'un enfant. Midi 21, une pause et nous verrons toute l'actualité sportive.
Le Rouf, votre restaurant sur le lagon, vous invite à découvrir sa nouvelle carte aux multiples saveurs. Des mets raffinés et savoureux éveilleront vos papilles. Le Rouf, un site exceptionnel qui fera de votre repas un moment inoubliable. Le Rouf, une nouvelle carte à savourer 7 jours sur 7. Savez-vous qu'avec des ampoules à basse consommation, vous faites 75% d'économie et en plus elles éclairent plus longtemps. Favorisez des peintures claires et profitez de la lumière naturelle. Pensez à éteindre lorsque vous quittez une pièce. Toutes les astuces sur le site EEC. Sur RAB, il n'y a pas jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
Pas vous sans nous, pas nous sans vous. En 2020, nous aurons encore besoin de votre précieux soutien. À les entendre, ils sont tous premiers. Vous qui écoutez RRB, vous y croyez ?
Un faux week-end, Frédéric Joncheret.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
En rugby, les supporters du 15 de France sont comblés. Les Bleus vont débuter le tournoi à destination avec un crunch. Ils affronteront la nuit prochaine l'Angleterre au Stade de France, Morgan.
Un bon tournoi à destination est un tournoi gagné pour Fabien Galthié. Mais le nouveau sélectionneur français a reconnu que le rajeunissement du 15 de France rentre aussi dans une vision à moyen terme avec pour horizon la Coupe du Monde 2023 en France. 3 mois après la fin de la Coupe du Monde au Japon, c'est donc une équipe remaniée qui se prépare à affronter les vice-champions du monde anglais. Mais Fabien Galthié l'assure, le 15 de France sera prêt à livrer des phases de combat féroces.
Attendez-vous à une présence, un engagement optimal, à des joueurs qui vont jouer avec passion, qui vont repousser leurs limites au plus loin que possible. Attendez-vous à un paquet d'avant, une conquête qui va tout donner. Attendez-vous à des phases de combat féroces.
Le nouveau capitaine Charles Olivon va dans le sens de son sélectionneur. Il a souligné l'ampleur du défi réservé à son équipe, mais le Basque estime que les Bleus ont des atouts à faire valoir.
Je pense qu'il y aura une grosse partie de mental, on en est bien conscient. Ça va piquer pour nous, mais ça va piquer pour eux aussi. Hein. Il ne faut pas non plus voir les choses que dans un sens. Voilà, on est simplement motivé pour être consistant sur ces 80 minutes-là et ne pas lâcher à aucun moment, quoi.
Mauvaise nouvelle en revanche pour les Bleus, l'ailier Damien Penaud qui a ressenti une gêne musculaire lors du dernier entraînement est forfait. Il sera remplacé par le Rochelais Vincent Rathès. Le coup d'envoi de France-Angleterre sera donné à 2h du matin pour nous. Le tournoi qui a commencé la nuit dernière, le tenant du titre, le Pays de Galles, a humilié l'Italie 42-0. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde se sont adjugés le bonus offensif. L'Irlande, de son côté, a battu l'Écosse 19-12. Les Écossais peuvent se consoler avec le bonus défensif.
Et l'équipe de France des moins de 20 ans s'est inclinée, elle, sur le fil face à l'Angleterre en ouverture de son tournoi. Une défaite cruelle 29 à 24, car les Bleus ont encaissé un essai à la dernière minute. Et en rugby à 7, Morgan, fin de la phase de poule pour les sélections tricolores sur l'étape mondiale de Sydney.
En ce moment, les Bleus de Sefo Siega et de Pierre-Gilles Lacafia affrontent l'Argentine. Ils doivent absolument l'emporter pour jouer les quarts de finale cet après-midi. La sélection féminine s'est qualifiée pour la demi-finale. Elle, les coéquipières de Yolen Yengo, ont écrasé l'Irlande et l'Espagne hier avant de s'incliner ce matin 14 à 10 devant l'Australie. Elles seront opposées à la Nouvelle-Zélande pour une place en finale. Ce sera à 16h.
Et côté Ovalie, toujours, le Racing 92 a remporté le premier championnat de France de rugby à 7 en battant Pau en finale. Et en tennis, Sofia Kenin, sacrée à l'Open d'Australie, la jeune américaine a battu l'Espagnole Garbine Muguruza 2-7 à 1 hier soir et elle décroche le premier grand chelem de sa carrière.
À 21 ans, Kenin l'a emporté face à une joueuse d'expérience qui compte déjà 2 titres du grand chelem à son palmarès. L'américaine a fait preuve de caractère pour retourner une situation mal embarquée puisque Muguruza avait remporté le premier set. Sofia Kenin a réalisé son rêve en remportant cet Open d'Australie. Ce soir, place à la finale messieurs. Elle opposera à 19h30 le Serbe Novak Djokovic à l'Autrichien Dominic Thiem. Un match qui promet d'être accroché. 2 stats à connaître. Djokovic a remporté ses 7 finales disputées à Melbourne. Dans le même temps, Thiem reste sur 2 victoires consécutives face à Djokovic.
Et en football, suite de la 22e journée de Ligue 1, ce matin, le Paris Saint-Germain écrasé Montpellier 5-0.
Le leader du championnat de France a facilement surclassé Montpellier. Il s'est rendu le match facile en inscrivant un but dès la 8e minute de jeu par l'intermédiaire de Sarabia, puis par l'expulsion du gardien montpelliérain dans le premier quart d'heure. Le but dans le raid Di Maria et du défenseur de Montpellier contre son camp en fin de première période ont permis aux Parisiens de faire le break à la pause. Kylian Mbappé puis Lévin Kurzawa en seconde période ont parachevé le succès. L'entraîneur Thomas Tuchel était satisfait de l'état d'esprit qu'a montré son équipe.
Je suis très content et très heureux qu'on a gagné encore sans but encaissé, sans occasion pour l'adversaire. On a trouvé des espaces très fluides pour créer occasion offensivement. C'était possible de marquer 5 buts, peut-être aussi un peu plus. C'est jamais facile, c'est Montpellier, ils ont encaissé 5 buts pendant 8 matchs et maintenant ils jouent ici et on gagne 5-0. C'est une équipe qui laisse le moins possible occasion pour l'adversaire. Oui, on a montré encore une mentalité pour gagner.
Le seul accroc dans cette rencontre ultra dominée par Paris, c'est la sortie du buteur Kylian Mbappé. L'attaquant français n'a pas apprécié de sortir à l'heure de jeu et n'a pas voulu serrer la main de son coach. On signalera également l'entrée en jeu d'Edinson Cavani. L'Uruguayen, qui avait émis l'envie de partir pendant le mercato, a joué une 30aine de minutes. Dans les autres rencontres du jour, Lille est allé battre Strasbourg 2-1. Monaco s'est incliné 3-1 devant Nîmes. Les Monégasques se sont sabordés en récoltant 2 cartons rouges dès la 30e minute de jeu. Reims a écrasé Angers 4-1. Dijon a brillé sur la pelouse de Brest. Victoire 3-0 des Bourguignons. Enfin, Toulouse, le dernier du championnat, a mis fin à sa série de 11 défaites de rang par un match nul 0-0 face à Amiens, le 18e.
Merci Morgane. Midi 28, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne journée sur Radio Rythme Bleu. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour le rappel des titres à 13h.